Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Edouani Wamakaran.
Le Grand Dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenni Berry.
Halud Mouli.
Chenni Berry. Sigi Kafoba.
Le Grand Dialogue.
Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce forum de la presse de ce vendredi qui va s'intéresser aux sujets qui ont marqué l'actualité de cette semaine et plus particulièrement à trois d'entre eux. Il s'agit de l'évolution de la situation sécuritaire avec le renforcement du dispositif à Ségou et également nous allons parler du processus de paix. La 7e session du comité de suivi de l'accord a pris fin hier. Le transport fluvial, nous parlerons de ce sujet également. Le gouvernement va mettre un dispositif pour organiser et sécuriser la navigation. Alors nous sommes avec trois invités, Paul Nguessan du journal Le Prétoire, Bandjougou Danté qui est le président de l'Union des radios et télévisions libres du Mali au téléphone depuis Ségou, Ami Baba Cissé de la radio RFM également présent dans ce studio. Tout de suite, nous nous retrouverons pour le débat.
Le Grand Dialogue.
Alors ce soir, nous allons parler de ce premier sujet qui concerne la sécurité. Monsieur Bandjougou Danté, vous êtes président de l'URTEL et également directeur de la radio Sania à Ségou. Vous êtes là-bas à Ségou. Cette semaine, le dispositif sécuritaire a été renforcé dans la région. Que représente ce renforcement du dispositif dans votre région pour les populations?
Merci beaucoup mon frère. Le renforcement de ce dispositif est une garantie de sécurité. C'est aussi porteur d'espoir. D'espoir parce que quand on prend la région de Ségou, géographiquement, ça se trouve au cœur du Mali. Et il ne faut surtout pas oublier que Ségou se trouve effectivement à la lisière des zones considérées comme étant des zones de conflit aujourd'hui, parce qu'une bonne partie de la région fait frontière avec la région mauritanienne. Donc, en plus, effectivement, de la dégradation de la situation sécuritaire dans ces parties nord de notre pays, nous assistons parfois à un banditisme résiduel, des gens qui font souvent des attaques sporadiques, lesquelles attaques sont souvent attribuées à des groupes armés, alors qu'en réalité, c'est des bandits qui opèrent souvent pour malheureusement ôter la vie à des paisibles populations ou souvent
justement,
même
ce renforcement du dispositif fait suite aux multiples attaques dans la région. Est-ce que depuis lors il y a eu une baisse de ces attaques?
Bon, comme tout s'est passé dans l'intervalle de quelques jours, quelques semaines, il est trop tôt pour pouvoir dire qu'il y a eu une baisse de ces attaques là parce qu'il faut rester vigilant, il faut rester prudent. Les attaques ont eu lieu les dernières semaines. Maintenant, du jour au lendemain, on ne peut pas dire qu'il y a eu une baisse parce que l'on ne doit pas baisser la garde.
Alors, Monsieur Paul Nguessan, vous êtes du journal Le Prétoire. Selon le gouverneur de la région de Ségou, ces dispositifs visent à traquer les djihadistes dans la forêt de Ouagadougou. Pensez-vous que cela sera possible?
Oui, merci bien pour l'invitation. Je pense que cela est bien possible parce que le gouverneur a pris l'ampleur du danger qui plane sur la vie des Banazans. Et je pense que moi, je suis revenu même dimanche, je suis venu dimanche de Ségou, j'étais à la conférence régionale de la DMAPIAJ. Effectivement, j'ai vu un dispositif de sécurité impressionnant parce qu'on est jusqu'à Nuno. On a vu que le dispositif a été renforcé. Bon, moi, je tire chapeau d'abord aux autorités locales là-bas parce qu'il ne faudra pas penser que ces attaques sporadiques sont des effets de paille. Non, c'est une menace réelle pour le pays parce qu'aujourd'hui, si Ségou est attaqué, sachez que si ces gens arrivent à se déporter vers Ségou, on ne met pas un dispositif sécuritaire qu'il faut. Je pense que au-delà de Ségou, peut-être que vous voyez ce que ça peut faire. Donc vraiment, moi, je tire chapeau aux autorités et surtout, mais il ne faudra pas baisser les gardes. Parce que le problème, c'est ça aussi. Il ne faudra pas baisser les gardes. Il faut renforcer toujours la sécurité. Et puis, il faut aussi que nos soldats qui sont au front soient vraiment, vraiment équipés. Parce qu'il y a ce problème d'équipement-là. Moi, j'ai eu la chance de voir. Je vois que l'équipement n'y est pas encore au rendez-vous. Mais les gens essaient de fond avec, mais je pense qu'il faudra songer vraiment à équiper en plus encore, renforcer du moins nos forces de sécurité avec le matériel nécessaire pour pouvoir faire face à l'ennemi.
Oui, M. Paul Nguessan, vous semblez être rassuré par ce dispositif qui a été mis en place, mais est-ce que vous pensez que cela va pouvoir stopper les attaques?
Au moins, c'est en renforçant quand même le dispositif, ça peut quand même dissuader ces attaques-là. Ça peut dissuader aussi l'ennemi. Donc, je pense déjà que c'est un pas salutaire.
Alors, M. Ami Baba Cissé, vous êtes journaliste à la radio RFM. Alors, selon vous, ce renforcement vient-il au bon moment?
Moi, je pense que c'est bien cette prise de conscience des autorités
à partir du moment où Ségou, comme l'a dit tout de suite Paul Nguessan, est un endroit stratégique de la capitale, comment on appelle ça là, du centre du pays. Avant, on parlait de Sévaré, on parlait de Mopti comme endroit plus stratégique où la sécurité devait être renforcée. Aujourd'hui, on voit qu'on est en train de descendre plus bas. Moi, je ne suis pas beaucoup plus rassuré que Paul, qui pense que c'est bien. On a récemment vu à Sikasso, là où il y a une opération qui est en place et qui n'a pas empêché à ce qu'il y ait une menace djihadiste ou bien disons terroriste. Aujourd'hui, les terroristes, on le dit, ils n'agissent plus de façon normale, de façon classique. C'est une guerre asymétrique et cette sécurité qui est beaucoup plus visible, à mon avis, doit s'adapter à la situation. Il faut que les hommes sur le terrain soient beaucoup plus des hommes infiltrés, des hommes camouflés et aussi des hommes plus ou moins visible, parce que c'est des gens aujourd'hui qui sont en train d'apprendre beaucoup et malheureusement, souvent de temps à autre, nous sommes malheureusement surpris.
Oui, mais faut-il attendre qu'il y ait des attaques pour renforcer les dispositifs dans les différentes régions? Est-ce que le renforcement ne devrait pas être effectif sur toute l'étendue du territoire?
Je pense que l'État essaie de faire. Aujourd'hui, il faut être réaliste. On n'a pas les moyens d'assurer l'intégralité de la sécurité du Mali. Ce n'est même pas possible. Malgré le soutien de la communauté internationale que nous savons qu'il y a des endroits où ça ne va pas du tout. Et Ségou, comme il l'a dit tout de suite, c'est un endroit. Aujourd'hui, quand on arrive à Ségou, pratiquement c'est Bamako. On a vu en 2013, quand ils ont attaqué, c'est sur deux fronts. Ils sont partis vers Kona, ils sont partis vers Djabali. Et heureusement pour nous que ça n'a pas passé. Donc Ségou aujourd'hui c'est une zone stratégique avec même cette éclosion des djihadistes de Amadou Koufa. Je crois que la menace, elle est surtout concentré aujourd'hui à Ségou, c'est un pan qu'il faut caler.
Alors, Monsieur Bandjougou Danté, il y a Paul Nguessan qui est rassuré par rapport à ce dispositif qui a été mis en place et Ami Baba Cissé qui est peu rassuré. Alors, que peut-on dire par rapport aux habitants de la région de Ségou qui sont les premiers concernés? Est-ce qu'ils sont rassurés par rapport à ce dispositif?
Bon, en réalité, je ne trouve pas que les habitants de Ségou soient les premiers concernés. C'est toutes les populations du Mali qui sont les plus concernées. Nous n'avons pas affaire à des armées organisées qui progressent pour une occupation territoriale. Nous avons affaire à des gens qui font des attaques sporadiques. Ils peuvent attaquer là où on ne s'attend pas. Donc, la présence aujourd'hui dans la zone de Ségou, effectivement, comme mon collègue l'a dit, c'est du chiasif. Non seulement c'est du chiasisme, mais ça permet aussi de rassurer les populations qui vont savoir qu'effectivement l'autorité publique sait ce qui se passe, on prend les dispositions nécessaires qui s'imposent, on ne dort pas, on est en train de chercher, on est en train de comprendre, on veut défendre. Sinon, honnêtement, aujourd'hui, dire qu'on veut sécuriser Ségou, en sécurisant Ségou, c'est le Mali qu'on sécurise, parce qu'on ne sait pas où est-ce qu'on va frapper.
Tout à fait. Alors, après Ségou, nous allons parler des tractations de membres de la société civile qui sont en cours pour désarmer les nombreux disciples du Front de Libération du Massina d'Amadou Koumfa. Alors, Monsieur Paul Nguessan, pensez-vous que cette initiative peut être exécutée normalement et sans aucune incidence?
Bon, d'abord, c'est salutaire, parce que c'est salutaire du moment où est-ce qu'on arrive quand même à désarmer, à faire réinsérer certains jeunes pour laisser des âmes pour revenir à la vie active. Mais la question qui se pose, est-ce seulement de désarmer les gens et les laisser? Quel sera le programme de suivi de ces gens pour pouvoir vraiment les réinsérer dans la société? Parce que le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que c'est vrai, on pense que c'est l'histoire des djihadismes qui prend à carreau les gens. Mais il y a un facteur que nous, de fois, on a tendance à oublier. Il y a cette crise de chômage, de pauvreté qui concourt à cela aussi. Est-ce que la société civile qui est en train de faire ce travail, que je tire chapeau au passage, est-ce qu'ils ont vu tous les contours pour pouvoir vraiment que ces jeunes-là, une fois qu'ils déposent les armes, on puisse les réinsérer dans la société pour qu'ils puissent peut-être apprendre un métier, pour qu'on les réinsère comme il se doit pour ne pas qu'ils soient encore tentés de repartir encore vers ces djihadistes. Parce que on sait quand même que le plus souvent, les djihadistes, c'est des gens qui ont des sous. Donc, ils achètent facilement la conscience en radicalisant aussi l'esprit des gens. Est-ce que vraiment la société civile a tenu compte de toutes ces étapes-là pour pouvoir faire son travail? Même le travail qu'ils sont en train de battre est salutaire et ils pensent qu'il faut encourager cela. Il faudra quand même que les autorités aussi se joignent à eux pour pouvoir vraiment les donner un coup de main pour que vraiment on arrive vraiment à désarmer ces jeunes-là. Mais je pense qu'encore avec leur âge, on se facile de les déshabiller par rapport à ceux que les adultes qui ont une certaine vision plus exigeant par rapport à ces jeunes-là. Donc, je pense qu'il y a de l'espoir.
Alors, M. Bandiougou Danté, est-ce que il y a les initiateurs de cette campagne qui disent que certains d'entre eux, parmi ces jeunes-là, il y a certains qui ont déposé des armes. Alors, peut-on craindre une infiltration de ces jeunes en acceptant de déposer les armes, qu'ils soient infiltrés dans la société pour mener des attaques?
Non, moi, je ne crois pas. C'est que moi, je pense qu'il faut s'attaquer aux racines du mal. Les racines du mal, c'est quoi? C'est d'abord la pauvreté. Premièrement. Deuxièmement, des jeunes désœuvrés, ils sont capables de tout faire. Aujourd'hui, moi, je crois que le problème n'est forcément pas la conviction de ces gens-là. C'est plutôt un problème économique. Ça, c'est extrêmement important. L'économique joue un rôle important dans cette affaire-là. Sinon, aujourd'hui, beaucoup de gens se disent radicalisés ou on considère que c'est des gens radicalisés. Ils ne sont pas convaincus. Ils ne sont pas convaincus. Parce qu'ils n'ont pas autre chose à faire, parce qu'ils ne voient pas de perspective de lendemain meilleur. Il s'adonne à des pratiques malheureusement regrettables. Ça, c'est un premier aspect. Deuxième aspect, à supposer même qu'il y ait parmi ces gens des jeunes qui soient véritablement convaincus. Aujourd'hui, il faut surtout mettre l'accent sur la communication. La communication ne veut pas dire passer sur les antennes des radios ou à la télévision pour donner de l'information, mais il faut accepter le débat contradictoire. Moi, je suis convaincu d'une chose. L'islam pratiqué au Mali aujourd'hui, si on laissait la parole libre, si les leaders religieux, les organisations de la société civile, si les gens acceptaient le débat contradictoire comme ça se passe au niveau du grand dialogue, si on arrivait à mettre face à face les arguments que les uns et les autres détiennent, je reste convaincu que ceux qui cherchent à radicaliser les jeunes n'auront personne avec eux.
Alors cette campagne est-elle une bonne initiative?
Moi, je crois que c'est une bonne initiative parce qu'il s'agit d'apporter des arguments pour montrer effectivement que ce qu'on raconte à ces jeunes-là n'est pas vrai. C'est vrai, il y a certains jeunes qui savent que ce qu'on leur dit n'est pas vrai, mais pour des raisons économiques, ils continuent à suivre ces gens-là. Mais ceux qui pourraient éventuellement être convaincus à cause du manque d'informations, il faut accepter le débat contradictoire. Il faut faire en sorte que ceux qui tiennent les discours virulents, radicaux, il faut accepter le débat avec eux. Il faut échanger avec eux pour qu'ils apportent les arguments pour lesquels ils cherchent effectivement à convaincre les gens. Sinon, nous ne sommes pas aujourd'hui des apprentis musulmans. Nous connaissons l'islam il y a longtemps. Nous avons pratiqué cette religion il y a longtemps. Mais si aujourd'hui d'autres veulent nous apprendre comment prier, c'est grave.
Alors, ami Baba Cissé, Bandiougou Danté et Paul Nguessan ont parlé des avantages de cette campagne. Est-ce qu'il peut y avoir des inconvénients aussi?
Des inconvénients, oui, toute chose a ses inconvénients. Mais ce qu'ils viennent de dire, les deux, je partage entièrement ce qu'ils disent, mais il a surtout raison lorsque Bandiougou évoque la religion. Aujourd'hui, on a un ministère des Affaires religieuses et du culte qui absolument ne fait rien. On est avec des hommes, Koufa c'est un prêcheur, et ces disciples dont on parle, c'est des gens peut-être à qui on a fait ingurgiter quelques versets du Coran, peut-être mal interprétés, et qui aujourd'hui sont en train de les aider à faire le mal. Lorsqu'on veut faire la paix avec des disciples de Koufa, moi ça m'étonne un peu. Parce que le mal ne peut pas résoudre le problème. Et ils sont aujourd'hui le mal. Et cette société civile, c'est quel type de société civile? C'est des politiciens, c'est des religieux, c'est des gens qui sont vraiment inspirés. Parce que, comme il a dit, il faut convaincre ces enfants.
Pensez-vous qu'il y a un objectif caché derrière cette initiative?
Mais vous savez, je le disais à l'instant, lorsqu'ils déposent des armes, c'est des gens qui ne combattent pas avec les armes. Les terroristes, c'est d'abord l'idéologie. La radicalisation, on en a parlé tout de suite. C'est des gens qui ont le problème au fond. Et ils peuvent le manifester de plusieurs manières, pas seulement avec les armes. Donc le problème, ce n'est pas surtout les armes aujourd'hui. Koufa, on le sait déjà, lui, il est presque irrécupérable. Et si tu vois qu'aujourd'hui, cette société se mobilise, c'est parce que récemment, il y a eu l'assassinat d'un des chefs, d'un enfant des chefs de village. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, la population elle-même décide de s'y mettre parce qu'on a frappé là où on n'aurait pas dû. Donc le problème, c'est ce qu'il a soulevé, et là il faut trouver des solutions. Mais je pense que le terrorisme, le djihadisme, c'est trop sérieux pour être confié à des gens qui n'ont aucune explication ou aucune compréhension de la situation. Il faut que l'État au plus haut niveau décide de prendre les choses en main, parce que c'est l'État qui a le destiné de ce pays à main et pas des sociétés peut-être souvent même fantoches.
Oui. Monsieur Paul Nguessan, vous avez parlé des dispositifs pour suivre ces différents jeunes, même après qu'ils aient déposé les armes. Quelles peuvent être ces différentes mesures?
Oui, là, justement, avant de revenir à votre question, je voudrais rebondir un peu sur ce que vient de dire mon collègue Cicer. Je pense qu'il ne faudra pas aussi négliger. La société civile joue un rôle très important dans un processus de sortie de crise. Parce que vous faites, mais la société civile joue plus de rôle même que les autorités. Parce que les autorités se servent au fait de la société civile pour pouvoir trouver même des postes. Des pistes de solutions, de réflexion. Et comme vous l'avez dit, je suis d'accord avec vous, parce qu'il faudra que le ministère des cultes, en charge des cultes et de la religion et des cultes, s'inspire réellement de ce que la société civile est en train de faire pour les accompagner réellement comme il se doit. Parce que ça, c'est leur rôle. Et l'initiative est louable. Parce que si eux, ils font le travail que le ministère ne réagit pas, je pense que c'est comme on n'a rien fait. Maintenant, revenant pour votre question, je pense qu'il y a plusieurs mécanismes pour pouvoir vraiment réinsérer ces jeunes dans la société. J'ai parlé au début de crise économique, pauvreté. Pensez-vous qu'aujourd'hui, ces jeunes-là qu'on récupère, si on les envoie dans les centres pour les former, pour qu'ils apprennent un métier, et qu'on trouve ces métiers-là, en apprenant, qu'on puisse quand même les mettre dans des centres où ils puissent manger, une cantine où ils puissent manger. D'abord, la pauvreté disparaîtra. L'envie d'aller se faire radicaliser va disparaître. C'est cela, on pourra les récupérer et les réinsérer dans la société. Parce que le tout n'est pas d'aller dire déposons les armes et puis revenons à se promener. Non, c'est pas ça le problème. Dans le problème, il faudra qu'on puisse créer un mécanisme de réinsertion pour que ces jeunes puissent apprendre au moins un emploi, un métier qui va leur permettre, eux, de se prendre en charge et si possible, même prendre en charge leur famille. Parce que le problème aussi, c'est ça. Il y a certains qui sont abandonnés carrément
l'idéologie. Alors, nous allons observer la première pause de cette édition et revenir tout de suite dans le studio.
Vous écoutez Studio Tamani, votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux.
Alors, je rappelle que ce soir, c'est toujours le forum de la presse de ce vendredi. Nous sommes en train de parler de sécurité, du processus de paix et de transport fluvial avec trois invités. Paul Nguessan du journal Le Prétoire, Bandiougou Danté, président de l'Union des radios et télévisions libres du Mali, également directeur de la radio Sania qui est au téléphone depuis Ségou, Ami Baba Cissé, journaliste de la radio RFM. Alors, en parlant de sécurité, nous allons toucher aussi le forum de Kidal. Il y a Iyad Agaliv qui fait planer l'ombre d'actions terroristes. De nombreux habitants de Kidal estiment que les menaces et les intimidations du chef d'Ansardi ne peuvent pas empêcher la tenue du forum. Alors, M. Paul Nguessan, quelle peut être l'ampleur de ces menaces?
Bon, Iyad Agaliv, qu'on ne veut pas, est à prendre au sérieux parce qu'il a une force de frappe terrible. Et il frappe au moment où les gens s'entendent le moins. Pour preuve, la ministre MAP ne peut pas démentir quand il s'en prend au camp de la ministre MAP. Mais ça ne peut pas empêcher que nous puissions aller à Kidal pour discuter, pour trouver une sortie de crise et pour pouvoir mettre le processus de l'accord d'Alger en marche. Parce qu'aujourd'hui, c'est quoi? L'accord a été signé. Il reste maintenant à mettre l'accord en application. Quand moi, j'ai été très heureux quand j'ai vu les hommes politiques à cette rencontre de Bamako, ils ont décidé qu'il faudra qu'ils partent dans le fief même de la CEMA pour discuter avec eux.
Qu'ils soient inclus.
Donc, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, la CEMA va montrer réellement à travers ce forum-là, leur volonté réelle, si oui ou non, ils veulent vraiment aller à la paix.
Parlant de volonté, il y a le Conseil de sécurité qui était au Mali qui a parlé d'une volonté réelle de toutes les parties, les acteurs. Oui. Est-ce que vous pensez que cette volonté est constatée sur le terrain?
Bon, je pense que le Conseil de sécurité, et ils sont venus juste, ils ont vu seulement une partie visible, mais ils ne sont pas imprégnés des réalités que nous vivons. Parce que quand on vient en mission, on essaie de rencontrer des gens, c'est déjà sécurisé, on ne voit pas la réalité. La réalité, c'est que c'est la CEMA va nous montrer à travers ce forum de Bamako, ce forum de Kidal du moins, qu'ils sont vraiment prêts à mettre en esprit l'accord et l'esprit de l'accord d'Alger.
Alors, M. Bandiougou Danté, quelles sont les mesures qu'on doit prendre par rapport à cette menace de Iyad Agaliv concernant le forum de Kidal et concernant même la sécurisation de ce forum?
Non, moi, je pense que par rapport aux menaces yadistes à Kidal, effectivement, c'est des menaces à prendre au sérieux. Mais l'avantage de tenir cette rencontre à Kidal, c'est que ça permet carrément aux uns et aux autres de se démarquer de ceux qui font du mal. Par exemple, quand aujourd'hui une partie de la CEMA, il faut se dire la vérité, même si nous sommes dans un processus de réconciliation, au sein de la CEMA, il y a quand même d'anciens terroristes reconvertis ou blanchis. Maintenant, si on arrive effectivement à tenir cette rencontre à Kidal, ça permet de faire la distinction nette entre les partisans de la paix et les opposés à la paix. Ça, c'est un premier aspect très important. Deuxième aspect très important, la réussite du forum de Kidal est un défi, non pas pour les autorités maliennes, mais également pour la communauté internationale. Parce que pendant longtemps, à Kidal, il y a qui ? Il y a l'AMINUSMA, à Kidal, il y a qui ? Il y a des Serval, ensuite il y a Barkhane. Si jamais un groupe, quelle que soit sa force, quelle que soit sa détermination, sa puissance, dirigé par un certain Yadagali, arrive à empêcher ou arrive encore à faire des attaques au moment où le monde entier se retrouve à Kidal, moi je pense que ce sera pas l'échec du Mali, mais ce sera plutôt l'échec de la communauté internationale tout entière.
Alors, Monsieur Ami Baba Cissé, qu'avez-vous à dire par rapport à ce forum de Kidal?
Bon, pour moi, ce forum, ce sera du temps perdu pour moi. Lorsqu'avec
vous pensez qu'il ne faut pas tenir ce forum?
Non, moi je pense que ce forum n'accouchera de rien du tout parce qu'il y a eu un accord. Lorsqu'on a signé l'accord à Bamako avec les groupes armés, avec tout le monde, moi je pense que le problème, il était censé être résolu. Mais lorsqu'on donne plus de pouvoir, plus de privilèges à la CMA qui dit, bon, le Mali ira désormais à l'Azawad, ils l'ont bien dit, vous l'avez entendu, ils n'ont pas encore oublié ce qu'on appelle leur intention de diviser le Mali. Et c'est vrai, l'État fait tout, la communauté internationale fait tout pour que le problème puisse être résolu. Quant à Yad, nous l'avons dit,
mais quand on parle du retour du gouvernement, des autorités, de l'administration, de l'armée à Kidal, tenir le forum avec la participation du gouvernement, des différents acteurs et que la société civile aussi soit inclue dans ce forum, vous ne pensez pas que ce soit un bon début pour dans le processus de paix?
Ça fait 8 mois qu'on a dit ça jusqu'à aujourd'hui. L'administration n'est pas au nord dans les endroits stratégiques. Ça, ce sont des déclarations et le plus important, c'est l'action. Si l'État veut vraiment aller à la paix, nous en sommes contents, nous sommes d'accord. Mais
donc, vous ne considérez pas le forum de Kidal comme une action concrète?
Le forum, pour moi, c'est encore aller donner certains avantages à ces groupes armés. Vous les avez entendus, ils ne cessent de parler et de réclamer l'argent qui a été promis. C'est tout ce qu'ils ont en tête. Est-ce que après cet argent, même s'ils ont après cet argent-là, si cet argent finit, qu'est-ce qui se passera après? Moi, je n'en suis pas sûr. Je fais partie des gens qui sont vraiment pessimistes du devenir de ce forum-là. Par rapport à Iyad, nous l'avons dit récemment, le président l'a dit, Iyad, c'est la seule menace. Il l'a clamé haut et fort et il a dit pas de négociation. Quant à la classe politique aujourd'hui, elle est divisée. Il y en a qui pensent qu'il faut négocier avec Iyad. Iyad aujourd'hui, pourquoi ne pas négocier avec lui? Il y a eu des gens qui sont pires que Iyad.
Qu'est-ce que vous pensez qu'il faut négocier avec lui?
Moi, ce que moi je pense, c'est de mettre en œuvre la solution du problème. Il est vrai, il a fait du mal à ce pays. C'est un terroriste, on ne peut pas le nier. Mais au MNLA aujourd'hui, il y a des terroristes. À la CMA, à la plateforme, il y a des terroristes. Ce n'est pas seulement Iyad, ce sont les mêmes gens qui
l'ont aidé. À la même plateforme?
À la même plateforme, à la même CMA, ce sont les gens qui ont pris Gao, Tombouctou ensemble. Donc c'est les mêmes têtes. Seulement,
est-ce que vous avez des preuves?
Les preuves, ce n'est pas ici que je vais te montrer les preuves, c'est dans un tribunal qu'on montre les preuves.
Monsieur Paul Nguessan, êtes-vous d'accord avec Monsieur Ami Baba Cissé?
D'accord, je comprends un peu que Ami Baba soit pessimiste, parce qu'effectivement, on a depuis la signature de l'accord d'Alger, les autorités maliennes ont fait le mieux pour pouvoir vraiment mettre l'accord en application, l'esprit, la lettre, mais toujours, le problème est toujours au niveau de la CMA. La question qu'on doit se poser aujourd'hui est de savoir, devons-nous toujours répondre aux caprices, faire plaisir aux gens de la CMA? Savoir, on va à Kidal, nous sommes tous d'accord, hein, Kidal, le fait n'est pas d'aller à Kidal. J'ai l'impression que les gens pensent que c'est quand on va à Kidal qu'on va réunifier le pays. Non, il faudra qu'on pose le problème de la réunification, l'accord d'Alger. On doit commencer à mettre l'accord, l'esprit maintenant en pratique. Le processus doit suivre son cours. On doit pouvoir, c'est vrai, on a dit dans la rencontre, ils disent non, bientôt on va faire des trucs de transition. Il faudra qu'on mette l'accord d'Alger. Ce n'est pas les rebelles qui m'intéressent, c'est la population qui vit dans ces zones-là, qui sont pris en otage, qui souffrent. Il faudra quand même que la communauté internationale comprenne, que les autorités comprennent qu'il est temps qu'on mette faire la récréation, qu'on essaie d'aller un peu vite. C'est vrai qu'il ne faudra pas aller vite parce qu'on est pressé, mais il faudra qu'on puisse vraiment commencer, que les gens voient une lueur d'espoir pour cette population-là qui souffre, pour les autorités maliennes qui sont en train de... Bien aujourd'hui, quand vous regardez à Bamako, on se plaint à Bamako. Pourquoi? Parce qu'on n'arrive même pas à se concentrer sur l'essentiel. Tout le problème est focalisé sur Kidal. Alors que Kidal n'est pas... On n'a pas passé 5 ans en train de parler de Kidal. Nous avons des urgences aussi au niveau du pays.
Ouais. Alors, nous allons maintenant parler de la police qui est dénoncée pour des actes de racket sur les populations. Selon Breima Beridogo, député élu de la localité de Kadiolo, les forces de l'ordre multiplient les extorsions de fonds dans la région. Le parlementaire affirme que les hommes armés soupçonnés d'avoir voulu attaquer l'armée malienne lundi à Misseni dans le sud du pays étaient en réalité des policiers se livrés aux racket. Alors, que peut-on dire, monsieur Bandjougou Dan, par rapport à cette dénonciation faite par monsieur le député Ibrahima Beridogo?
En réalité, aujourd'hui, ce n'est pas dans la zone d'intervention du policier seulement que des comportements indignes d'un policier sont manifestés. Ça se passe un peu partout. Malheureusement, dans ce corps-là, comme dans tous les corps de métier aujourd'hui, vraiment, au niveau de la police, on a des gens qui ne savent pas pourquoi ils sont là-bas. Ils font honte à ce métier à travers leur comportement. Ils sont impliqués dans des scandales, ils sont impliqués dans beaucoup de choses. Moi, je pense qu'il faut voir le mode de recrutement. Il ne faut pas prendre n'importe qui pour être policier, il ne faut pas prendre n'importe qui pour porter l'uniforme, parce que hier, les policiers étaient celui-là qui était droit, juridique. Mais aujourd'hui, honnêtement, les mots me manquent pour qualifier le comportement de certains policiers. Les mots me manquent. Parce que il y a de ces comportements-là, ça n'engendre que la frustration. Et souvent, on a le sentiment que l'on veut même s'opposer à l'autorité. Or, ce n'est pas le comportement de l'homme qui est en face, mais c'est plutôt l'État qui le représente, malheureusement. Je crois que cela interpelle l'État. Cela interpelle le niveau de recrutement. Il faut voir effectivement le mental, le comportement du policier envers les citoyens qui aujourd'hui vraiment est déplorable.
Alors, monsieur Ami Baba Cissé, quand nous sommes attaqués par des djihadistes, des terroristes, des bandits armés et quand nous sommes aussi attaqués par nos propres forces de l'ordre, c'est-à-dire la police, comme le dénonce monsieur Breima Beridogo, que faut-il penser maintenant?
Que faut-il penser? C'est difficile à dire. Il l'a dit, hein, c'est une question de formation, c'est une question d'éducation. Mais la police, aujourd'hui, ce n'est pas des gens qui savent ce qu'ils ont comme rôle. Normalement, c'est la police qui doit protéger. La police, c'est celui qui doit sensibiliser. Mais aujourd'hui, les policiers, tout ce qui leur plaît, c'est que tu enfreignes la loi, c'est que tu brûles le feu, c'est que tu n'aies pas de vignettes. Et ça leur permet, eux, d'exister. Moi, je pense que la première des choses dans un pays, des policiers comme ça, lorsque le terrorisme est en train de d'éclabousser le pays et que ces gens-là se permettent cela, pas seulement les policiers, c'est au niveau de tous les corps aujourd'hui, pratiquement de l'administration de ce pays, que des choses inadmissibles et incompréhensibles sont en train de se faire. C'est souvent étonnant. Récemment, on parlait de ces primes-là qui ont été détournées après tant de jours et de mois où on parlait de lutte contre la corruption. Lorsque les soldats sont en train de mourir au nom du pays, pour la libération du pays, pour la sécurité des populations, il y en a encore dans la capitale qui sont en train de vraiment jouer sur les contribuables maliens. Moi, je pense que le président, il est à l'écoute, le premier ministre, il est là. Ça, ce sont des choses qu'il faut mettre au compte même des terroristes. Ces policiers ne sont pas des policiers, c'est des gens vraiment qu'il faut sanctionner. Mais est-ce que cette sanction va venir?
Quand vous dites que ces policiers ne sont pas des policiers, est-ce qu'on peut envisager aussi que ce soit des gens qui utilisent des uniformes, se mettant en place des policiers pour faire commettre ces genres d'actes?
Mais vous venez de dire que ce sont des policiers. Donc, vous avez la...
On ne dit pas que c'est des policiers. On dit que selon le Breima Beridogo, député élu de la localité de Kadiolo, qui dit que c'est la police.
Mais bien sûr, ici, à Bamako, on en a vu. On a même arrêté des gens qui sont habillés souvent en uniforme, pas seulement en policier, même en militaire. C'est pourquoi on dit souvent, il faut faire attention. La police, aujourd'hui, est dotée de véhicules quand même. Quand vous verrez les véhicules de la police, vous saurez que c'est des policiers. Mais lorsque c'est deux, trois individus en tenue de policiers, là, c'est beaucoup plus inquiétant. Et souvent, il faut que les gens se sauvent.
Alors, M. Paul Nguessan, il semblerait que cette situation soit une réalité dans le pays. Que peut-on faire pour mettre fin à ce phénomène?
Voilà, vraiment, moi, je suis sidéré quand j'entends un honorable, un élu du peuple qui dénonce le comportement des policiers. Et moi, ça ne c'est pas étonnant, mais moi, j'en veux tellement à nos autorités. Imaginez-vous que le pays a été coupé en deux pendant plus de 10 mois. Ces djihadistes, ces terroristes qui étaient au nord, mais ils portaient des tenues militaires que nos soldats portaient au sud. Dieu merci, l'intervention servale arrive, on essaie de libérer quelques zones, le pays d'une manière ou d'autre est réunifié. Et jusqu'à là, on ne songe même pas à pouvoir changer la tenue de nos soldats, de nos forces de défense et de sécurité. Mais dans les autres pays, on a vu, ce n'est pas l'affaire de moyens. C'est une affaire de vigilance, de protection des gens. On laisse la vie des citoyens en danger. Comme si de rien n'était, parce que nos autorités, eux, ils ont des griffes, ils sont gardés. Non. Aujourd'hui, nous promenons à Bamako, vous voyez deux policiers qui bloquent une route, qui demandent des... C'est même pas si c'est des pièces. Parce qu'ils veulent seulement du patrol. Sont-ils des policiers? Qui sont-ils en réalité? On dénonce, le ministère ne réagit pas, les autorités ne réagissent pas. Donc, je pense que quelque part, si cela continue, nos autorités sont complices.
Alors, nous allons observer la deuxième pause de cette émission et tout de suite, nous allons continuer.
Une réaction?
Un avis?
Un commentaire?
Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous.
Studio Tamani, sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre.
Monsieur Ami Baba Cissé, vous vouliez dire un mot par rapport à cette dénonciation de
l'élu. Quand je venais, tout de suite, lorsque je venais, j'ai rencontré deux agents, deux policiers en moto et armés en train de courir derrière une dame dans un véhicule. On bloque la dame, comme il a dit tout de suite, et on lui demande de montrer. Ça dit, c'est eux-mêmes qui font peur, des policiers avec des armes qui circulent en cours de route. Je ne sais pas où est-ce qu'ils ont enlevé ces motos. Ce n'est pas comme ça. Le policier, il doit tranquilliser les citoyens. Mais vous faites comme ça, la dame, elle va faire un accident, elle va provoquer un choc. Et là, qu'est-ce qui se passerait? Non, je pense qu'il y a trop de choses apparentes. Il y a trop d'amateurisme dans la façon dont c'est...
Mais dans ce genre de situation, si les populations, les habitants des différentes localités aussi respectaient les règles, est-ce que ça ne permettrait pas de limiter les...
Non, ce n'est pas que la dame a fait une infraction. On soupçonnait la dame. On pense juste que c'est parce que par devant, il n'y avait pas la plaque. Mais ce n'est pas la manière quand même.
Oui, mais quand on soupçonne quelqu'un directement, je crois que les policiers doivent même courir pour chercher la dame.
Ben en fait...
Vous dites bien qu'elle était soupçonnée.
Je peux rétablir. Oui. Je pense qu'il faudra que nos forces de sécurité, surtout les policiers quand même, respectent les citoyens. Parce qu'effectivement, on a maintenant, à Bamako, on constate une brigade motorisée.
Ah voilà, ok.
Cette brigade motorisée, pour moi, je pense que c'est une façon de traquer, de sécuriser la paisible population qui sont dans la capitale. Mais lorsque ces gens-là deviennent l'ennemi même des citoyens, c'est un problème parce que c'est pas la première fois qu'on voit cela. Des gens qui, à tout moment, qui arrêtent des véhicules, non. Ils sont là pour ça, c'est des fois dissuasif. Parce qu'aujourd'hui, on a vu, on a frappé Bamako en plein cœur avec l'hôtel de Radisson Blu. Je pense qu'en mettant la brigade motorisée, c'est une façon de pouvoir patrouiller pour montrer qu'effectivement, il y a une force qui veille sur la sécurité des populations. Mais si ces brigades motorisées vont venir encore se transformer comme nos policiers de commissariat, je pense que ce n'est plus la peine qu'on annule.
Ok. Alors nous allons maintenant parler du processus de paix. Monsieur Bandjougou Danté, le comité de suivi des accords de paix a achevé hier son 7e rendez-vous. Ses membres se sont réjouis des progrès enregistrés, notamment sur l'organisation prochaine du forum de Kidal. Toutefois, il a demandé que le processus de cantonnement et de mise en place de la transition dans les régions soit accéléré. Monsieur Danté, pensez-vous que cette 7e session, parce qu'il y a le gouvernement qui affirme son optimisme après cette session, pensez-vous qu'on peut penser que cela va permettre de faire bouger les lignes?
Bon, moi, je pense que déjà, il y a eu des avancées. Il y a eu des avancées parce que ce soit la communauté internationale, que ce soit les représentants des mouvements armés, que ce soit l'État, tout le monde reconnaît effectivement qu'il y a la volonté d'aller vers la paix. Alors, saisissons cette opportunité et faisons en sorte que les rencontres futures qui vont avoir lieu permettent effectivement aux uns et aux autres de continuer à manifester leur bonne foi. Je pense que aujourd'hui, personne n'a intérêt à ce qu'on revienne à la case du départ. Parce que les situations encourageantes que nous sommes en train d'enregistrer maintenant, c'est des situations qui devraient se passer, à mon avis, il y a un an, on devrait être dans cette situation. Et des élections régionales, communales seraient déjà organisées si aujourd'hui le climat de confiance qui règne avait régné il y a un an. Or, je ne crois pas qu'il y ait eu de nouvelles situations qui ont amené les gens à changer de mentalité, alors qu'on avait la possibilité, n'est-ce pas, de saisir toutes ces opportunités-là et gagner du temps déjà.
Alors, M. Paul Nguessan, sait-on les conclusions de cette 7e session du comité de suivi?
Bon, ce matin même, je disais un peu, où on parle de bientôt dans 6 mois, la mise en place des autorités transitoires dans les régions du Nord, etc. Bon, moi, je pense que le comité de suivi de l'accord, là, moi, je pense qu'ils sont en train de s'amuser avec quand même le peuple malien.
Comment?
Parce qu'on ne peut pas concevoir qu'on puisse aller à Alger pendant des douloureux mois de discussions intenses, que le gouvernement puisse faire concession de certains privilèges, pour qu'on puisse paraffer un accord, qu'on revienne jusqu'à une conclusion contre l'accord, et qu'on met un comité. Et bizarrement, ce comité, chaque fois, au sorti de la réunion, j'ai l'impression que c'est plus l'avis, le désir de la CEMA, la coordination des mois de la ZAWAD, qui intéresse plus les membres du comité de suivi, plus précisément la communauté internationale qui siège, c'est-à-dire que l'Algérie, les Nations Unies. Mais l'avis même du gouvernement, des autorités maliennes, j'ai l'impression que ça ne les intéresse pas. Les autorités sont en train d'écrire pour dire ouais, on a signé l'accord, on a fait des concessions, on veut partir même jusqu'à une régénération poussée, avancée, du jamais vu même au Mali. Mais qu'il faut quand même qu'on puisse taper du poing sur la table pour dire, bon, écoutez, on doit aller à l'essentiel. Mais chaque fois, on revient, non, on doit faire ceci, on doit faire cela, on n'est pas d'accord sur... Mais s'il y a une crise de confiance, pourquoi est-ce pourquoi le comité existe? Le comité est là pour dissuader, pour pouvoir balayer, aplanir le chemin. Mais malheureusement, je vois que le comité, les responsables du comité, sème plus de doutes même entre la CEMA et les autorités. Il faudra quand même qu'on puisse être clair et net pour qu'on avance.
Alors, Ami Baba Cissé, de la sixième session à cette septième session, qu'est-ce qui a bougé? Qu'est-ce qui a changé?
Ben, moi, je pense que c'est encore une rencontre qui n'a pas donné grand-chose. Parce que, heureusement, moi, j'y étais. Mais je ne peux pas te dire ce qui en est sorti parce qu'on nous a complètement vidé de la salle. Moi, je pense que si c'est une affaire nationale, la presse, ce n'est pas pour autre chose, c'est pour dire aux gens ce qui se passe. Entre eux, ils ont discuté. C'est un problème d'abord de représentativité. On ne sait pas qui doit représenter qui dans ce comité. Et chacun veut avoir de la place, alors que c'est limiter le nombre de places. Deuxièmement, c'est une question de budget. Ils l'ont dit l'autre jour, l'aspect le plus important de ce problème aujourd'hui, c'est l'argent. Quand l'argent va venir, on le met à la volonté, les choses peuvent bouger. Mais aujourd'hui, toutes les parties ont la volonté d'aller de l'avant, comme l'a dit Bandjougou et Paul. Mais est-ce que la volonté seule suffit? Non. Ce qui est important, la communauté internationale sait que le problème n'est pas encore résolu. Et la MINUSMA et le Conseil de sécurité de l'ONU qui a envoyé une délégation sait aussi que le Mali et les groupes armés ne sont que des acteurs superficiels. Tout repose aujourd'hui, l'accord, la garantie, tout repose sur la communauté internationale. Il faut que les fonds soient mobilisés pour espérer. Maintenant, comment gérer ça? C'est un problème. Donc, vous-même, vous avez vu, c'est une rencontre qui n'a pas dit grand-chose parce que tout n'est pas OK.
Alors, êtes-vous d'accord avec la conclusion de M. Ami Baba Cissé et Paul Nguessan quand il dit que les différents partis, les acteurs ne pèsent pas lourd, que c'est la communauté internationale qui peut trancher sur ce processus?
Oui, je suis d'accord avec lui parce que bien avant même que le régime actuel ne soit au pouvoir, sous la transition, nous sommes allés à Paris. Les donateurs, les bailleurs nous ont promis des sous. Aujourd'hui, le problème, c'est le problème d'argent, le nerf de la guerre. Et chose bizarre, c'est que j'ai l'impression que parmi les membres, que ce soit au niveau des autorités, des différents ministères représentés, des différents officiers représentés au niveau de la CEMA, les gens sont en train de... Je pense qu'ils voient plus le côté financier. Ils ne voient pas le côté processus de sortie de crise.
Oui, mais si on doit régler tout le temps avec l'argent, pensez-vous que le problème va finir?
Mais si on doit... Mais l'argent, c'est justement, c'est parce que, puisque la crise est venue, pourquoi? On dit la crise, quand tu prends l'inquiétude de la crise, on dit quoi? C'est parce que les régions du Nord ont été laissées pour compte. Et donc, on veut créer notre État qui est la ZAWAD. Et en voulant créer l'État d'Azawad, c'est pouvoir moderniser l'État d'Azawad. Donc, c'est l'argent qui est à la base. Et cet argent-là, il faudra qu'on puisse décaisser et qu'on puisse travailler comme il se doit. Donc, je pense que c'est ça le problème. Et c'est la crise de confiance, comme on dit, qui fait qu'aujourd'hui, les lignes ne bougent pas. On va revenir au 8e, la 8e réunion. On va le sortir encore zéro.
Vous êtes au courant des milliards que François Hollande a promis pour le Nord et ensuite pour le Mali, donc on attend.
Okay. Alors maintenant, nous allons parler du transport fluvial. Il y a le transport fluvial qui représente 70% des transports au Mali qui va faire l'objet d'un nouveau cadre réglementaire. Les naufrages sont réguliers, meurtriers au Mali. Le gouvernement va mettre en place un dispositif pour organiser et sécuriser la navigation. Alors, Monsieur Bandjougou Danté, ce nouveau dispositif, pensez-vous qu'il est assez important et qu'il a été très bien analysé avant d'être mis en place?
Non, moi je pense qu'il ne fallait pas quand même attendre à ce qu'il y ait des pertes en vie humaine pour mettre en place un dispositif, quand on sait quand même que nous avons des fleuves sur lesquels la navigation se fait régulièrement et à des moments précis de l'année. Maintenant, je pense qu'il faut éviter de jouer aux sapeurs-pompiers parce que notre pays devrait être doté effectivement d'une situation de gestion de ces cas avant des pertes énormes en vie humaine. Bon, maintenant, nous pensons quand même qu'il faut que chacun joue son rôle. Ceux qui seront chargés de la mise en œuvre, de la sécurisation et du contrôle, que là aussi, les policiers, qu'on vient de dénoncer tout de suite, ne vont pas faire de la mauvaise pratique là-bas aussi. Il faut que ce soit conduit à des gens capables, effectivement, de faire appliquer la loi et dans toute sa rigueur.
Oui.
Protéger la vie humaine.
Une chose est de mettre les équipements en place, mais aussi de chercher les ressources humaines qui sont à la hauteur. Alors, Monsieur Ami Baba Cissé, vous, est-ce que vous pensez que ce nouveau dispositif va aussi limiter les dégâts au niveau de la migration?
La migration, bon, la migration, on ne peut pas penser ça. Parce que moi, je pense que la migration, ça dépend. Tout le monde a ses raisons, ses motivations pour aller d'un point à un autre. Ça, on ne peut pas empêcher. Et la migration...
Oui, avec les morts qu'il y a eu sur les fleuves concernant ces départs, est-ce que ça peut limiter cela si le contrôle est bien fait?
Le contrôle est bien fait, le contrôle est mal fait, c'est une question de perception. Mais le problème c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, au Mali, que ça soit à l'intérieur ou bien à l'extérieur, ces transports fluviaux ne sont pas du tout réglementarisés. Parce que aujourd'hui, tu vas à la Tombouctou, tu arrives à Sévaré, tu prends une pirogue surchargée.
Oui, justement, c'est parce que c'est pas réglementarisé que ce nouveau dispositif a été mis en place. Mais pensez-vous que ce nouveau dispositif pourra régler ce problème?
Bon, là, je l'ai dit tout de suite, il faut toujours être prudent dans ce qu'on dit. Au Mali, ce sont chaque fois des mots. Et je suis sûr et certain qu'un jour sur ce plateau, on parlera encore d'une autre catastrophe, malheureusement.
Que Dieu nous en préserve. Alors, Monsieur Paul Nguessan, êtes-vous d'accord avec Monsieur Ami Baba Cissé?
Non, je suis pas trop sceptique aussi que comme Baba Cissé, mais je dirais que je pense que c'est vrai, c'est une très belle initiative. J'ai été même stupéfait quand j'ai vu le Conseil des ministres prendre une statuer là-dessus. Je me dis que voilà, enfin, les autorités ont décidé quand même de se réveiller. Mais il y a un mec qui est là. Bien avant cela, nous avons quand même une brigade fluviale qui existe. Mais comment peut-on concevoir, quand on va à Koulikoro, où moi j'ai la chance de prendre le bateau pour aller dans le nord, tu as une brigade fluviale qui est là, il y a des bateaux, des pinasses qui sont motorisés, on fait des surcharges, les gens n'ont pas de gilets de protection, rien, ils sont là, ils voient, ils ne disent rien. Donc ils attendent d'abord que les gens tombent, meurent, ou bien quand il y a une collision dans l'eau, sans seulement quand on essaie de dire « allô, allô, bon, venez ». Non, mais dès là, on doit montrer que cette brigade fluviale-là a sa raison d'être dans le pays. Les autorités ont eu raison de créer ça.
Les mesures doivent être prises depuis le départ.
C'est pas maintenant qu'il faut venir dire qu'on va créer encore d'autres lois, faire d'autres brigades. Non, il faut quand même qu'on quitte, au Mali quand même, on essaie d'être un peu sérieux. Il faudra pas qu'on montre toujours aux gens que nous sommes un État. C'est-à-dire qu'il faut qu'on arrête un peu, chaque fois quand on parle plus des épopées. Non. Le monde évolue, évoluons avec le monde. Nous sommes dans un monde de globalisation, de mondialisation. Aujourd'hui, on regarde nos voisins, on copie ce qui est copié et puis on applique. Il ne faut pas laisser les gens mourir chaque fois dans le fleuve Niger. Même le fleuve Niger aujourd'hui, vous voyez, vous prenez les bateaux qui viennent. C'est des bateaux surchargés, les gens font... Il n'y a même pas de suivi. Mais tout ceci, là, il ne faut pas attendre pendant des mois, des années, quand les gens sont morts, chaque fois que Dieu fait, pour qu'on vive... Non, il faudra quand même qu'on soit sûr dans ce pays-là. Sinon, on va mettre des brigades tout le long du fleuve Niger. Tant qu'il n'y a pas cette volonté là, les gens vont toujours faire le surchargé, il va toujours avoir des morts.
La volonté avant tout. Monsieur Ami Baba Cissé, vous voulez réagir?
Bien sûr, moi je pense qu'il y a souvent des situations qui ne dépendent pas de l'homme. Il y a des situations qui sont naturelles. Il y a souvent des bateaux qui peuvent chavirer. Ça, d'accord. Mais il faut qu'il y ait au moins cette prévention quand même. Lorsque vous avez un bateau, on sait le nombre de places, le nombre de personnes, qu'on exige qu'il y ait le nombre de gilets pour chaque passager du bateau. Au moins, au cas où ça ne va pas, là, on tentera de se sauver. Moi, je pense que ce sont des exigences qu'on peut imposer aux propriétaires des finances, aux propriétaires des bateaux, pour que demain ou bien après-demain, on sente au moins que l'État a une volonté de vouloir sécuriser les gens. Mais lorsque vous laissez comme les véhicules, comme sur les routes, là, les gens transportent n'importe comment, souvent de façon, comment on appelle ça, énorme. Hein, vous voyez, ils ont cassé combien d'échangeurs, combien de panneaux ici, dans la capitale même. Je pense que c'est dommage.
Alors, le dernier mot, nous allons le donner à M. Bandjougou Danté. Pensez-vous que l'état des différents bateaux, des pinasses aussi, sont contrôlés avant le départ au niveau du fleuve?
Non, moi je pense qu'il faut inviter les autorités à plus de contrôle, à plus de vigilance et à appliquer ce qui a été décidé sur papier. Nous avons les meilleurs textes, nous avons les meilleures réglementations, mais malheureusement, les hommes chargés de l'application de ces mesures-là font gravement défaut. Donc je crois que ce qui est sur papier doit être traduit en acte par des hommes valables.
Alors merci Monsieur Bandiougou Danté. Je rappelle que ce soir le forum de la presse s'intéressait aux sujets qui ont marqué l'actualité de cette semaine et il y en a trois. L'évolution de la situation sécuritaire avec le renforcement du dispositif à Ségou, le processus de paix, la 7e session du comité de suivi de l'accord a pris fin hier, le transport fluvial, le gouvernement va mettre un dispositif pour organiser et sécuriser la navigation. Alors pour parler de ces différents sujets, nous avons invité Paul Nguessan du journal Le Prétoire, Bandiougou Danté, président de l'URTEL qui était au téléphone depuis Ségou et Ami Baba Cissé de la radio RFM. Mohamadou Touré vous a présenté ce débat. À la mise en onde, il y avait M. Seydou Simbou et à la réalisation, c'était Ayouba Sow.
Le grand dialogue.
Sigi Kafoba.
Edouani Ouamakaran.
Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenne Berry. Haloud Moundi.
Chenne.